Néo-Québec, dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant.
Joanne Belot, c'est elle qui est face à moi en ce moment. Joanne Belot est éducatrice depuis 20 ans. Et elle est désormais, je vais le dire comment, la voix de la résilience des enseignants dans tout le pays. Vous vous rappelez à l'époque qu'il y avait, du côté des infirmières, il y avait une infirmière qui avait fait une vidéo, puis c'est devenu viral, et puis voilà, c'était la voix des infirmières qui marquait. Joanne Belot, c'est l'équivalent au niveau de des enseignants. C'est, je dis vraiment de tout le pays, parce que après avoir subi un burn-out, ben elle a souhaité partager son message de résilience. Et ça, c'est qu'est-ce qu'elle a trouvé de mieux à faire? Ben c'était de créer une marque de vêtements, Be Loud. Et là, je vous dis, on est quoi en 2011, quasiment 10 ans après le début de sa carrière d'enseignante. Joanne, bonjour.
Bonjour.
Merci. Bonjour, merci d'être là pour parler de... Au début, quand j'ai parlé des sujets qu'on allait avoir, j'ai dit qu'on allait parler de résilience. Mm-hmm. Un gala de la résilience. Et autour de moi, bon, les yeux se sont un peu écarquillés, mm-hmm. parce que c'est pas... On n'entend pas le gala de la résilience.
Right.
Et le gala de la résilience parce que, ben voilà, encore une fois, l'actualité nous mène à ça. On voit des enseignants dans la rue, qui sont en grève pour déplorer les conditions de travail et les conséquences, justement, des conditions de travail. Mais avant qu'on ne parle de ce gars-là, parlons de toi. Parlons de toi. Tu es enseignante depuis 20 ans.
Ça aurait été 22 ans.
Ouais, alors, ouais, le ouais. Ça aurait été, c'est parce qu'il y a 2 ans, là, tu as dit, OK, j'en peux plus, j'arrête.
Ouais, ouais,
mais...
Ouais.
Tu as choisi de devenir enseignante il y a quoi, il y a un peu plus de 20 ans. Pourquoi?
Comment? Wow, tu sais quoi, la décision, non. Je pense qu'elle a été prise, j'avais 8 ans.
Okay.
J'avais 8 ans lorsque je me suis dit, I want to be a teacher, je veux être enseignante. Mm-hmm. Et ça, c'est moi là qui joue avec mes poupées, ma petite sœur qui a 5 ans de moins que moi. Puis j'avais comme un peu peut-être oublié le rêve jusqu'à ce qu'au secondaire, en secondaire 4, je réalise que, ouais, je veux être enseignante, mm-hmm. je veux travailler mm-hmm. avec les enfants. Puis c'est ça, j'ai fait le parcours cégep université pour devenir enseignante anglais langue seconde.
Tu aimais ça?
Oui.
Je pense tu aimes ça.
Oh oui, avec passion. Mm-hmm. Tout ce que je faisais, je le faisais à 400%, mais sans avoir besoin de quoi que ce soit en retour. D'ailleurs, ce que j'avais en retour, c'était de pouvoir puiser chez les élèves, de pouvoir to pour into them. Vous allez mm-hmm. voir que je fais un peu de franglish, là.
C'est la prof d'anglais. C'est la prof d'anglais.
Exactement. Mm-hmm.
Et tu as enseigné où?
Alors, j'ai enseigné à la Chine et mm-hmm. à Verdun. Mm-hmm. Deux écoles. Avant d'enseigner, j'ai travaillé dans des écoles, j'ai travaillé dans des garderies. J'ai toujours maintenu ce même parcours-là après le cégep et l'université. Mm-hmm. Mais les deux écoles où j'ai travaillé, c'en est une à Verdun, école secondaire Monseigneur Richard. Et j'ai travaillé aussi à la Chine, à Dalbeview, mm-hmm. pendant 2 ans.
Bon, j'allais dire bon parcours d'enseignante mm-hmm. pendant une dizaine d'années.
Pendant, je te dirais... 18 ans, parce que le burn-out, c'était en novembre 2020. On va
oui.
y venir,
oui.
là.
Oui, mais c'est ça. Je disais 10 mm-hmm. ans parce que tu commences et en 2011...
Je pars une ligne de vêtements.
Tu pars une ligne de vêtements.
Exactement.
Voilà. Pourquoi?
Bon.
Et en plus, le titre, le nom, oui, c'est Be Loud.
C'est Be Loud.
Voilà.
Exactement.
Pourquoi?
Alors...
Je sais, le salaire d'enseignant, il fallait faire un peu plus d'argent à côté.
Non, c'était... Puis j'aime dire ça, que je pense vraiment que j'ai eu une inspiration de Dieu. Alors moi, j'étais quelqu'un que... Mon style, là, c'était de porter un t-shirt et jeans. Puis à un moment donné, les t-shirts portaient toujours un message. Alors je les achetais à New York, un peu partout. Puis j'ai été inspirée, je pense, d'un message... en anglais, qui était « Don't be shy with your praise, don't be silent with your worship, don't be greedy with your testimony, be loud about it. Mm-hmm. » Et j'ai trouvé le message tellement puissant que je voulais le mettre sur un t-shirt que je porterais, puisque je porte des t-shirts qui ont des messages.
Qui ont des messages, oui.
Exactement. Mm-hmm. Mais là, j'ai trouvé le message tellement puissant, j'étais comme « Mais non, ça ne peut pas être un t-shirt que je vais porter moi-même, il faut que ça soit disponible pour tous. » Et c'est ainsi que j'ai parti la ligne de vêtements et que je l'ai même emmenée dans mes salles de classe parce que j'ai toujours porté un message vers mes élèves qu'ils sont, they're perfect, they are exactly who they're supposed to be. Et alors que, à l'âge, j'enseigne au secondaire, c'est l'âge où on se questionne, on n'est pas trop sûr de nous, on ne s'aime pas trop. Puis j'ai fait le parcours et je sais qu'en bout de ligne, mais vous allez être, vous êtes déjà, mais vous allez être de merveilleux citoyens ben, de ce que vous êtes. Alors, ce parcours-là que vous êtes en train de passer à travers, qui est difficile, comme je les ramasse là, qui pleurent là, dans les couloirs, puis on a toujours eu cette relation où ce que ces élèves-là venaient se confier en moi, malgré que ce n'est pas moi l'éducatrice spécialisée ou quoi que ce soit, alors en tout cas, je les référais au cas échéant, mais j'ai toujours eu cette belle relation avec eux qui fait en sorte que lorsque j'ai parti la ligne de vêtements, que c'était « be loud oui. », d'être soi-même, de s'aimer soi-même, d'avoir cette confiance en soi.
Et de l'affirmer, de le vivre, exactement. Quoi, exactement, de le vivre et tout.
Et de le faire, lorsque je dis « to be loud », c'est que tu le fais de façon que d'autres voient que tu le fais. Parce que c'est ce qui va inspirer et motiver d'autres personnes de le faire aussi. De voir que tu es capable. Alors, oh, ben, peut-être que je suis capable aussi.
OK. Donc, ça fonctionne. Tout va bien. Tu es toujours dans ton enseignement. Et puis, il y a 2 ans.
3 ans.
Il y a trois, non, ça fait 3 ans, 2020. Ouais. Voilà. Tout s'arrête. Tu n'en peux plus et tu arrêtes. Explique-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé.
Ouais, parce que je ne savais même pas que je n'en pouvais plus. Un dimanche soir, j'ai envoyé un message texte à mon directeur lui disant que « Ah non, je ne pense pas pouvoir rentrer demain. » Et même que j'ai besoin de quelques jours, je me sentais lasse, je me sentais fatiguée, mais ne sachant pas, ou plutôt pensant que j'avais juste besoin d'une petite pause de 2-3 jours. C'était COVID, on est dans la correction, on est dans l'enseignement à distance ainsi que l'enseignement en classe. Puis j'avais beaucoup qui se passait à la maison aussi, des rénovations depuis quelques mois. Puis lui tout de suite de me dire « Ah oui, non, prends quelques jours, pas de problème. » De toute façon, c'est ce message, avec ce message qu'il a débuté l'année scolaire, de nous encourager à prendre soin de nous, puis de pas y aller dans l'excès. On comprend, nous sommes tous en train de vivre quelque chose, c'est nouveau ce qui se passe.
Joanne, tu es la première, excuse-moi de t'interrompre, oui. Tu es la première enseignante que j'interroge par rapport à ce phénomène de burn-out et tout. J'ai eu des enseignantes qui sont passées, mais on a parlé parfois d'autres choses. Concrètement, ce burn-out général là, ton corps, explique-moi, j'ai vraiment envie de comprendre, parce que tu te lèves tous les matins, tu vas rencontrer des élèves, secondaires ou collégiales, peu importe, tu le fais, et je dis tu dans le sens de l'enseignant, bien par sûr. Passion, ouais. tu distilles le savoir et tout ça, tu éveilles chez eux la curiosité pour ce monde dans lequel nous vivons et tout, tu rentres chez toi le soir, tu fais des corrections, ainsi de suite, mais pourquoi, et il y a d'autres qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui a la comptabilité, qui a la banque, il n'y a pas ce burn-out là. Pourquoi vous les enseignants, pourquoi vous avez ce burn-out là? C'est quoi concrètement?
Tu l'as tellement bien décrit, parce que tu as décrit justement ce qu'on fait chaque jour, ou ce qu'on emmène, the job goes home, ou tu restes après l'école très tard pour continuer, bon, que ce soit ta planification, correction, quoi que ce soit. On donne de nous-mêmes. Je vais parler pour moi.
Oui,
moi, là, je me donnais mais vraiment à 400%. Mais sans difficulté, je le faisais demain. Je pensais. C'était facile. J'aimais beaucoup ce que je faisais. Puis, je n'ai pas compris la fois où, avant de rentrer en classe, je suis dans ma voiture en train de pleurer. Mais pendant 30 minutes, là. Pour je ne sais pas pourquoi.
Juste comme ça.
Comme ça. Et ça s'est passé à plusieurs reprises. Où ce que même, au lieu d'aller manger avec des enseignants, je restais dans ma salle de classe. Et les émotions viennent, je ne sais pas, je pleure. C'est arrivé souvent où je dois ouvrir la porte parce que la cloche sonne, les élèves attendent. J'attends que c'est la deuxième cloche qui sonne. Alors, à ce moment-là, les élèves sont en retard. Mais ils ne sont pas en retard parce que c'est moi qui n'ai pas ouvert la porte. Mais c'est que je sèche mes larmes. Et un moment donné, voilà, c'est les yeux rouges, c'est le nez gonflé. Et demande-moi pourquoi, je ne peux pas te dire. Maintenant, lorsque ce dimanche soir, j'envoie le message à mon directeur, et ainsi de suite, ben moi, je dois parler à mon médecin. Alors, le mercredi, puis encore, c'est COVID, alors c'est des rendez-vous téléphoniques. Puis, bon, je lui dis qu'écoute, voici comment est-ce que je me sens, voici ce qui se passe. Puis, elle me pose des questions. Et c'est elle qui m'apprend que j'ai ce qu'on appelle « adjustment anxiety ».
OK.
Je ne sais pas c'est quoi, mais avec ce que je lui expliquais...
Une anxiété de... Alors, j'essaie de traduire ça un peu... Adjustment,
de gérer tout
ouais.
tout ce qui se passe,
okay.
peut-être parce que oui, il y avait une question de rénovation, il y a la COVID, il y a l'enseignement à distance, il y a
c'est beaucoup de choses en même
c'est
temps donc
de choses, et on continue à se donner mais à 400%. Mm-hmm. Alors moi, malgré le fait que j'ai le mari, les enfants qui m'attendent à la maison, mais je sais que à la maison n'est pas où je travaille le mieux. Je dois corriger ou je dois planifier comme tout ce que j'ai à faire. Moi, je reste mm-hmm. à l'école mm-hmm. Plusieurs heures pour pouvoir terminer la job. C'est pas tout le monde qui le font ainsi. Moi, je le faisais comme ça. Et mon médecin de vouloir m'arrêter jusqu'au mois de janvier. Je suis comme, mais non, j'en ai juste besoin de quelques jours, un 3-4 jours, juste le temps de
me refaire une santé et puis repartir. Oui.
Exactement. Mm-hmm. Puis, non, elle dit non, avec ce que tu m'as expliqué, adjustment anxiety, ainsi de suite. Je suis comme, ben là, I don't want to mess with my pay. J'avais peur pour la paye. Mm-hmm, mm-hmm. J'ai besoin d'argent.
Voilà, il y a aussi ça à côté.
Mais
ouais,
oui.
Il y a aussi ça, c'est important.
Alors, je suis comme, mais jusqu'au 21 décembre, on va se reparler. Mais sache que, en dedans de cette première semaine-là, que finalement, je me suis arrêtée, j'ai tout de suite compris que j'avais vraiment besoin d'un arrêt.
Okay.
J'avais besoin d'une pause.
OK. Pourtant, tu as des vacances. Hein?
Ah oui.
Il y a des vacances.
Oui,
mais non, je comprends tout à fait. Je comprends ce qui se passe et pourquoi on en parle de plus en plus. C'est juste que, bon, je parle pour moi. J'interviewe des gens, mais je n'avais jamais véritablement compris qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, boum, vous n'en pouvez plus. Attention, il y a des gens qui ont des burn-out, ça arrive à tout le monde dans différents domaines, mais mm-hmm. quand c'est généralisé comme ça, c'est compliqué, on ne comprend pas les conditions de travail qui sont déplorées aujourd'hui. On entend les gens dire, ben voilà, déjà même au niveau des salaires, ça ne suit pas par rapport à ce qu'on donne, ainsi de suite. Mm-hmm. Je te pose la question, est-ce que le salaire ne compensait pas ce côté mal-être que tu avais?
Tu vois, j'ai dû apprendre à vivre avec peu.
OK.
Et j'ai commencé à faire ça à partir de mon premier congé de maternité. Parce que le salaire baisse. Et là, je me suis dit, ben, j'utilise ce moment-là pour comme me donner l'habitude de vivre avec ce peu-là. Mm-hmm. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que depuis mon premier congé de maternité, je ne suis pas revenue à ma tâche à 100%. Je suis revenue à une tâche à 80%. Et ça, c'est parce qu'on peut le faire seulement après un congé de maternité. On peut le faire pendant 2 ans. Et en dedans de ces 2 ans-là, j'ai eu un deuxième enfant.
Okay.
Alors, j'ai pu travailler à 80% de ma tâche pendant, si ce n'est 4, même 5 ans. Parce mm-hmm. que je pense que la 5e année, tu dois en faire la demande et puis c'est soit qu'on l'accepte ou pas. Mm-hmm. La 6e année, parce que 100% de la tâche, ah non, j'ai vite compris là que non.
Que c'est pas possible, tu physiquement, c'est pas possible.
Exactement. Mm-hmm. Puis j'étais prof d'anglais. Anglais, langue seconde. Mais non, c'était juste, mm-hmm. c'était beaucoup.
Mm-hmm. Aujourd'hui, quel est ton statut? Tu es arrêté complètement?
Je suis arrêté. Je vois mon médecin au mois. Puis, il faut dire que j'étais retournée en septembre 2022,
okay.
de manière progressive, et c'était seulement 33%. Alors, sur 6 groupes, j'avais 2 groupes. Puis, c'était une question d'argent, la raison pour laquelle je suis retournée. Mon médecin ne pensait pas que j'étais prête. Je voyais une ergothérapeute en santé mentale, je voyais une ergothérapeute régulière, je voyais, en tout cas, plusieurs professionnels.
Toute panoplie de professionnels.
Oui, et puis, mais l'argent, mon Dieu,
Oui, il faut vivre.
Oh oui. Alors, bien que on s'attendait à ce qu'en dehors de 12 semaines, lorsque tu es en arrêt, ben, lorsque tu reprends de manière progressive, en dehors de 12 semaines, là, il faut que tu sois capable de revenir à 100%. Non, c'était évident que ça n'allait pas être le cas. Puis même au bout de 12 semaines, je n'allais même pas augmenter ma tâche à 50%. Là. C'était ça. Ça me prenait 6 fois plus de temps de faire ce que je faisais auparavant.
Mais lorsqu'on a quelque chose je reviens encore là-dessus, de généraliser comme ça, comme ce qui se passe avec les enseignants, on le voit dans d'autres corps de métier, les infirmières et autres, mais restons avec les enseignants. Tu n'es pas la première qui crie, qui dit ça, on n'en peut plus. Est-ce que au sein de votre corporation, est-ce que vous n'avez pas des espèces de centres de soutien, des cercles? Est-ce que vous n'êtes pas accompagné par votre ministère de l'éducation psychologiquement? Il n'y a pas d'accompagnement?
Ben c'est sûr que c'est offert. Parce qu'à plusieurs reprises, et j'avais ce directeur qui, lui, pour de vrai, on pouvait sentir que c'était notre bien-être avant tout. Alors, je me rappelle, à deux reprises, j'étais à son bureau où il m'a donné le numéro 1-800 à appeler. Puis, on a des services, justement, à la commission scolaire, tout ça. Mais moi, je ne savais pas là que j'avais un problème. Je ne savais pas que c'est un burn-out qui s'en venait. Lorsque moi, je suis en train de pleurer dans ma voiture...
Tu ne sais pas pourquoi tu pleures.
Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas c'est quoi un burn-out. Et bien que j'ai vu d'autres collègues qui sont partis, mais ensuite qui sont revenus, mais c'est qu'il y avait quelque chose, il y avait un décès, il y avait quelque chose qui faisait en sorte que combiné avec peut-être la charge, que c'est ce qui emmenait l'épuisement, peut-être. Mais okay. dans mon cas, je devenais une autre personne, puis je ne comprenais pas. Alors moi, je n'ai jamais appelé. Je n'ai pas... j'ai commencé à être suivie des mois après. Parce que là, maintenant, ton corps te parle. Une fois que tu arrêtes là, ton corps, il est comme, ah oui, on peut faire ça.
On peut, ok.
Et c'est à partir de là que, mais il y a des choses qui se passent. Accident de voiture ici. Oh, le nombre d'accidents de voiture, mon Dieu, que j'ai fait. Puis, c'est parce que je n'étais plus bien. L'épuisement a fait en sorte que... Puis, comment est-ce qu'on guérit d'un épuisement? Parce que, oui, on prend un temps, mais c'est quoi exactement qu'on doit faire pour maintenant être correct et retourner au travail? Je me pose encore la question, je l'ai posée même la semaine dernière à mon médecin.
On se repose, non?
Ben, c'est quoi le repos lorsque on a quand même des tâches à la maison, on a des enfants?
On a des enfants, il faut vivre.
Parce que là, maintenant, entraîne un état de dépression où ce que, mais tu pleures tout le temps, alors tu veux sortir, t'égayer, faire les trucs sociaux que tu faisais, et là, tu dois faire semblant que tout va bien. Parce qu'il y a une charge mentale là, qui s'installe, que c'est mental, ça rentre dans le physique. C'est très difficile. C'est très difficile.
D'où l'idée de faire un gala. Le gala de la résilience, parlons-en. Ça a lieu dimanche prochain.
Exactement.
Comment? C'est une première.
Une première édition.
C'est la première édition. Non, mais même dans gala de la résilience.
Le concept et
tout ça, oui, voilà. C'est ça. Parle-nous de ça. Parle-nous un peu de. Voilà, pourquoi tu as voulu le faire? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Alors, le mot résilience a commencé à avoir une signification très personnelle pour moi. Et je vois le monde autour de moi aussi, qui, surtout en ces moments, je les appelle des moments noirs pour certains, il y a eu beaucoup de décès les dernières années. Les temps sont durs. Les finances pour plusieurs personnes, tout le monde est affecté par quelque chose. Puis, on pourrait se laisser abattre par ces choses-là. Moi, je nous donne un challenge de changer notre perception, notre mindset. Nous savons que dans cette vie, nous allons passer à travers plusieurs moments difficiles.
Bien sûr.
Puis, de voir ces moments plutôt comme... ce qui va nous rendre plus forts. Parce qu'on est appelé à faire preuve de résilience pendant ces moments. Mais lorsqu'on est dedans, on ne voit rien de positif. On ne sait pas qu'au bout du compte, ces expériences vont nous mener à devenir une personne plus forte, en bout de ligne, plus résiliente. Maintenant, c'est lorsqu'on prend un recul, qu'on regarde en arrière et qu'on voit, mais si ce n'était pas pour ces moments-là, pour ces embûches, ces expériences, je ne serais pas la personne forte que je suis. Alors, je veux qu'on célèbre le fait que nous sommes résilients, le fait que maintenant, en voyant ce par quoi on est passé, comme ça, lorsque ces moments-là reviennent, parce qu'il y en aura d'autres.
Il y en aura d'autres, bien sûr.
Mais c'est de les regarder comme, en tout cas, d'une autre façon.
Oui.
You know, to, comment dirais-je, de les... J'ouvre mes bras, là, la personne qui me voit vraiment, là, mais comme de les accueillir, oui, d'une façon à savoir, ah, OK, ça s'en vient, c'est parce que... Ben, il y a ça aussi, hein. Je vais le dire en anglais, you won't... God won't give you more than you can bear.
OK, effectivement.
Alors, sachant ça, c'est ça. C'est, puis encore, je dis de célébrer la résilience, il y aura du monde qui vont partager des témoignages poignants. Alors, on va être inspiré, motivé par ces témoignages. Et en même temps, je trouve que ben, ça va être le contexte, le moment où on peut partager nos moments.
Bien sûr.
Et ensuite, les célébrer.
Les célébrer. Et ça, ça a lieu donc le 10 décembre, dimanche prochain, comment, au Château Classique. Ça, c'est au 60-10, 6010, boulevard des Grandes Prairies à Saint-Léonard. Puis les biens, on les retrouve bien évidemment sur...
Sur mon site qui est beloudclothing.com.
C'est ça. Donc, 17h... cocktail et puis souper à 18h. Donc, oui, j'imagine, tu l'as dit, quelques axes un peu de la soirée.
Oui,
où est la programmation?
Alors, on peut s'attendre à de la bonne musique, on peut s'attendre à certaines personnalités publiques qui vont partager des expériences. Au contraire,
aussi de passages de moments difficiles,
oui,
quoi. Ouais.
Oui,
comment
oui,
elles sont passées à travers.
Puis je vais faire mes name drops demain, mais je vais en primeur t'en donner quelques-uns.
Vas-y. Ah, voilà. Bon, voilà.
Nous avons City Council Martine Musomwele qui va être des nôtres et qui va partager un témoignage poignant là, de son parcours de résilience. Et je vais nommer Petrona Joseph.
Joseph, tout à fait.
Elle aussi sera des nôtres et va nous parler. C'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant.
Ben, c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est aussi deux, comment on appelle ça, deux personnalités comme ça qu'on voit et qui ont eu aussi des moments, ben, comme tout le monde, des moments difficiles. Ouais, difficiles. Joanne Belot, merci beaucoup d'être venue nous parler de, oui, du gala, certes, mais de ce parcours, de ce par quoi tu es passé, que tu continues à passer. Tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est vraiment, je te dirais, est-ce que si on dit bonne guérison,
j'aimerais beaucoup,
comme on se posait la question de savoir est-ce qu'on guérit vraiment ou comment, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et puis espérer que tu retrouves ce métier que tu aimes tant, que tu retrouves ton monde, ou peut-être que, pourquoi pas, la pandémie nous l'a amené. Parfois on tourne la page et puis on passe à autre chose.
Peut-être que la nouvelle salle de classe
c'est le monde entier, tout
voilà,
à fait,
voilà.
Et donc en même temps, on garde ce que tu nous as dit, de continuer à être loud.
That's right.
C'est ça?
That's right.
D'accord.
Be loud.
Merci beaucoup. Je rappelle encore le 10 décembre. C'est
dimanche prochain.
Même passé une semaine. Donc, dépêchez-vous d'aller chercher vos tickets donc, sur beloudclothing.com. Ouais. Et puis voilà. C'est ça pour le gala de la résilience. J'aime beaucoup ça. Le gala de la résilience. Merci beaucoup et on se dit à bientôt.
Bienvenue. Merci beaucoup.
Mon nom est Cyril Ekwala.